Tout à Laszlo Karédas dans Tintin. le type au veston informe, il avait tout compris, Hergé.
Exactement.
Mais alors, bon, les auditeurs ont peut-être envie de devenir des calculatrices ambulantes. Moi, je leur conseille plutôt de bien-être. Parce que, comme la majorité des grandes fortunes listées par la revue Forbes, Carlos Slim est né riche. Et le mythe du self-made man, même si on en parle beaucoup, si on aime bien y faire référence, c'est pas sur la base du parcours personnel des gens qui sont effectivement riches. Alors, pour amasser les pesos, il faut bien-être et se montrer généreux avec l'argent qu'on a. Parce que se montrer généreux invite les autres à se montrer généreux avec vous. Et rapidement, Carlos Slim est devenu l'un des premiers financiers du parti qui est resté au pouvoir pendant des décennies. Le parti institutionnel révolutionnaire.
Et ça, le prix.
Le prix, exactement. Et ça n'a pas...
Depuis 1929.
Voilà, jusqu'en 2000. Et ça n'a pas manqué de lui valoir certaines faveurs en retour. Notamment en 88, lorsque son très bon ami Carlos Salinas est arrivé au pouvoir. Alors, c'était l'époque de l'ouverture aux mesures néolibérales. Et à cette époque-là, on vend à tour de bras les entreprises d'État. Et on les vend de préférence à des gens qui sont proches du pouvoir. Et entre 91 et 94, le nombre de milliardaires mexicains va passer de 2 à 24. Et le premier d'entre eux, c'est Carlos Slim. En 90, il achète l'entreprise de télécommunications mexicaine Telmex. Alors coup de chance phénoménal, le prix qu'on lui propose est très raisonnable. Et deuxième coup de chance absolument sensationnel, les conditions de la vente vont lui permettre de constituer un confortable monopole du jamais vu dans la région. Pas de concurrence pendant 6 ans. Alors à partir de là, les auditeurs qui ont suivi la recette vont commencer à pouvoir récolter les bénéfices de l'application méticuleuse de ces premières étapes. Ils vont pouvoir constituer un monopole. Aujourd'hui, Telmex, donc la société de télécom de Carlos Slim, c'est 90% des lignes fixes du pays. C'est la seconde société latino-américaine cotée en bourse. Et la société de téléphonie mobile, c'est 70% du marché mexicain. Un monopole qui permet d'imposer des tarifs 260 fois supérieurs à ceux des pays voisins pour les connexions Internet, 312 fois supérieurs pour la téléphonie cellulaire, et selon les dires même d'un gauchiste tel que le président de la Banque centrale mexicaine, d'avoir un impact direct sur la compétitivité de la nation. Mais alors là, il y a un personnage qu'on connaît bien aussi, à la base, si j'y suis, qui serait ravi, c'est Éric Brunet, un journaliste qui a écrit un livre intitulé « Être riche, un tabou français ». Et Éric Brunet nous avait expliqué que un riche, ça se cajole un peu, ça se bigeonne, on s'arrange pour que ses intérêts...
Ils sont victimes de répression, il y a une haine du riche en France, et Éric est là pour les sauver, pour les protéger.
C'est ça, Éric est là-bas, si j'y suis, qui fait œuvre de pédagogie en ce sens-là.
Pas seulement en France, il faut se souvenir que l'un des textes fétiches de la droite américaine, c'est la minorité la plus persécutée des États-Unis, le big business.
Voilà, et donc Brunet nous dit, ça, un riche, ça se bichonne, on s'arrange pour que ses intérêts convergent avec ceux de la nation. Dans le cas du Mexique, le président de la Banque centrale nous explique que les intérêts de Carlos Slim passent avant ceux de la nation. Mais une fois qu'on s'est constitué un monopole, eh bien on peut passer à un empire. Et en fait, dès sa naissance, par exemple dans un hôpital Medica qui appartient à Carlos Slim, le Mexicain moyen commence à enrichir Carlos Slim. Qu'il utilise un téléphone donc, ou simplement de l'électricité, qu'il utilise du pétrole, qu'il achète un disque, un livre, une barre chocolatée ou du papier hygiénique, le Mexicain moyen déverse ses pesos dans les poches très profondes de Carlos Slim.
Et pas les proches, parce que les proches, il n'en a pas. C'est Picsou, quoi.
Il en a, parce qu'une richesse comme ça ouvre des portes, des grands salons. Il est très proche de Bill Gates, il est très proche de Felipe González, l'ancien chef du gouvernement espagnol.
Socialiste,
voilà. Mais qui s'est transformé en lobbyiste pour Carlos Slim.
Qu'est-ce qu'il fait de bien et qu'est-ce qu'il fait d'éthique? Moi, j'attends la page éthique, parce que je suis sûr que Carlos fait de l'éthique.
Mais on va passer à l'éthique.
J'écoute Brigitte Jean-Perrin, je sais qu'il faut faire de l'éthique.
Il fait de l'éthique, mais avant de faire de l'éthique, il distribue à ses 220 000 employés, dont des dizaines et dizaines d'entreprises, des petites brochures dans lesquelles il dit « Il faut augmenter la productivité, la compétitivité et réduire les coûts ». Alors ça, c'est l'audace, c'est la prise de risque qu'on salue en France, notamment Laurence Parisot, qui nous explique que la richesse des plus riches, notamment les chefs d'entreprise, vient de leur capacité à prendre des risques. Mais il y a toujours des bougons. À France Inter, j'entends déjà des auditeurs dire « Mais voilà, quelqu'un qui est riche à ce point, ça pose problème. » Et pour essayer de contre-attaquer contre ces bougons, les gens qui ne supportent pas la richesse des plus riches, eh bien, en général, ce qu'on met en œuvre, c'est le philanthropisme. Et ça, c'est l'éthique, c'est la transparence, c'est la morale. Et Carlos Slim n'a pas été en reste, même s'il a expliqué quand même qu'il n'avait, je cite, « pas l'intention d'aller distribuer sa fortune à gauche et à droite, comme le Père Noël. » Ça ne l'a pas empêché de distribuer dans les dernières années 200 000 opérations chirurgicales, 70 paires de lunettes, 150 bourses d'études et 95 bicyclettes.
Mais c'est le Dassault mexicain.
Totalement, exactement. Alors il explique tout ça un petit peu comme...